Voilà, on va commencer. Je répète ce que j'ai déjà dit. Vous pouvez vous lever, prendre du café, prendre des croissants pendant ces prochains 45 minutes à peu près, jusque vers 11h moins 10. Et à partir de 11h, plus ou moins, on va avoir la partie cultuelle, c'est-à-dire louange. Et puis, Sainte-Seine, il n'y aura pas de prédication. Ce sera un moment très court. Pour cette première partie, ce sera une partie, en fait, de formation, d'une manière interactive. Vous serez appelés à y participer, à répondre. Ma femme, Martine, va avoir un micro. Donc, si vous voulez intervenir, vous pouvez m'interrompre. On n'est pas dans un culte. On n'est non plus dans une conférence classique où finalement quelqu'un prêche ou donne un discours et puis voilà, vous écoutez. Il va y avoir des moments de ce type, mais je travaille beaucoup sur l'interaction et aussi sur vos réactions. Donc, cette première partie concerne surtout les questions de sensibilité dans le culte. Alors d'abord, je me présente, je m'appelle donc Henri Bachet, je suis français, frontalier, pardon, et ma femme Martine. On a travaillé pendant plusieurs années, pendant une douzaine d'années, pour la Ligue pour la lecture de la Bible en Suisse romande, et puis au Pérou, et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses du point de vue de la culture dont je vais vous parler, qui sont en relation avec aussi ce passage dans une autre culture. Et j'ai travaillé au Touring Club Suisse pendant une vingtaine d'années, tout en travaillant à côté pour développer toute une question de réflexion, de sensibilité sur la question des images, paroles et images. André, par exemple, Dufour, elle a fait partie du conseil de Logoscom que nous avons développé, qu'on a arrêté en 2012. Et puis, vous verrez des petites cartes rouges là, c'est des sites web qu'on gère actuellement. On alimente toujours avec cette notion, mettre les gens au contact de la Bible sans passer par la lecture. Ça vous choque peut-être, mais vous verrez pourquoi nous avons entamé cela. Alors parmi nous, il y a même sur ce BibleTube là, sur YouTube, BibleTube, vous verrez sur la carte, il y a parmi nous un éminent personnage qui récite le psaume 23 qui a été filmé ici dans l'église et qui a déjà 13 000 consultations. Alors on est bien d'accord que tous les gens ne regardent pas du début jusqu'à la fin, mais c'est énorme. Et quelqu'un a mis un commentaire, « Ah, j'aimerais être à la place du berger ». Vous pouvez regarder sa prestation. Mais voilà, je vais vous entraîner dans ces questions de culture. Parce que, et pourquoi on a intitulé cette partie-là avec l'idée du gâteau, le culte, c'est pas du gâteau? Parce que souvent, nous arrivons dans l'église, dans le culte, et on ne se sent pas bien. Alors parfois, on se sent très bien, ça dépend des chanteurs, du prédicateur, de l'ambiance qu'on a eue avant ou après, et il y a des fois où ça ne va pas bien. Peut-être vous allez dans d'autres endroits et vous allez dire « Ah, là, c'était bien ». J'ai une fois emmené des amis, des amis proches, pour visiter l'église de Mulhouse, la fameuse église à Mulhouse qui a plusieurs milliers de personnes au culte. La personne est sortie avec nous et elle a dit « Ah, là, il y avait le Saint-Esprit ». « Ah bon ?» Je lui dis « Dans ton culte à toi, il n'y a pas de Saint-Esprit ?» Et voilà comment on peut analyser les choses, et je vais aussi vous donner les clés pourquoi une personne de ce type-là, ou de cette mentalité-là, de cette croyance-là, va dire « là, il y avait le Saint-Esprit », et peut-être dans son culte, va dire « ouais, mais il n'y a pas tellement le Saint-Esprit ». Et c'est peut-être pas tout à fait juste. Donc, c'est surtout pour vous aider, pas seulement au niveau du culte, mais vous allez voir aussi au niveau du couple, de la famille. Nous avons de sacrés problèmes culturels qu'on a de la difficulté à gérer, à comprendre. Et il nous manque des clés. parce qu'on croit qu'on est tombé dans la culture comme Obélix est tombé dans la marmite et que voilà, c'est normal et que voilà, ça continue comme ça. Et on ne se rend pas compte qu'on est dans un changement culturel tellement énorme, tellement profond. Et il y a beaucoup de difficultés, d'incompréhension, y compris quand on vient au culte ou quand on fréquente une église, qui sont de l'ordre de la culture et qui ne sont pas de l'ordre de la spiritualité, où c'est très peu du spirituel, c'est beaucoup plus du culturel. Et alors, vous avez devant vous un plan de ville. C'est à la fois un plan de ville qui est lié à la réalité, c'est presque un plan qui peut ressembler à Genève, mais en même temps, c'est une ville imaginaire. Alors, dans une première partie, vous allez peut-être jeter un coup d'œil. Pour ceux qui, je ne sais pas si tout le monde a une feuille, vous pouvez les regarder à deux. Et on va commencer par une première question. Qu'est-ce qui vous frappe sur ce plan? Alors, vous rappelez, je travaille en parabole. C'est comme cette ville, c'est comme l'histoire culturelle de ces dernières 500-600 ans, parce qu'on est tributaire de l'histoire qui nous a précédés. Et chaque quartier va représenter une évolution culturelle et des ruptures aussi entre des passages. Donc, essayez de regarder dans le détail, peut-être, mais surtout dans l'ensemble. Qu'est-ce qui vous frappe ou qu'est-ce que vous avez compris de ce plan ? Martine va passer avec le micro et vous pouvez répondre à cette question-là. Alors, je vous laisse regarder pendant quelques minutes.
Alors, quelque chose qui m'a frappé, c'est qu'il n'y a pas de pont, par exemple, entre le quartier des loisirs et le quartier de l'université, ou bien aussi dans l'autre sens, entre le quartier
ici
de la cathédrale et le quartier de l'économie.
Oui. Oui. Et c'est fait exprès. Martine.
Moi, ce qui m'a frappé en premier, c'est tout simplement l'eau qui sépare les quatre quartiers.
Voilà. Alors, c'est effectivement la croix. Et c'est la croix du Christ, bien sûr. Et c'est l'eau. Et dans cette ville, qui est très vieille, qui remonte au Moyen-Âge, cette croix, elle a toujours existé en Europe. Après, on va entendre Tony ou Katie. Eux, ils ont été évangélisés, on leur a apporté la croix. Mais en Occident, la croix, le judéo-christianisme est présent. Et je l'ai fait exprès parce que pour montrer que dans une ville où il y a le judéo-christianisme, il y a un climat qui s'installe. C'est comme dans une ville où il y a beaucoup d'eau. Si vous allez à Amsterdam, par exemple, il y a un climat qui s'est développé à cause de l'eau. Et en Europe et en Occident, on peut aussi inclure les États-Unis, et en partie l'Amérique du Sud, il y a ce judéo-christianisme qui a créé un climat du fait qu'aujourd'hui, vous pouvez encore laisser votre voiture sur un parking sans avoir de surveillance. Quand moi, j'étais au Pérou, on mettait un gamin dans la rue à qui on payait pour surveiller la voiture, même devant l'église. Et aujourd'hui, on est tributaire de ce judéo-christianisme. Il y a encore des valeurs où lorsqu'on donne une parole, cette parole, c'est une parole. On peut faire confiance. Je suis allé ce matin chercher les croissants que j'avais payé déjà au début de la semaine. On ne m'a pas demandé le ticket parce qu'il y a la confiance qui est entre le marchand et moi. Et ça, je crois qu'on ne le valorise pas. Alors nos politiques, ils veulent revenir, ils parlent du judéo-christianisme vis-à-vis de l'islam, mais il reste quoi de ce judéo-christianisme ? Question. On continue ?
Sur ce plan-là, j'ai cherché le chemin.
Le
chemin. Un chemin.
Un chemin.
Ou un sentier. Il n'y en a pas. Et pourtant, il y a la croix, tu as dit.
Il y a des rues.
Non, je cherche le chemin, parce que j'habite chemin Auguste Wilbert, mais on s'en fout le nom, mais le chemin n'existe pas, encore moins le sentier.
Oui, mais tu mettrais comment, qu'est-ce que tu imaginerais quand tu parles de sentier? Un sentier vers ici?
Nous sommes habitués à des autoroutes, et à des routes, des rues, mais le chemin se perd aujourd'hui, aussi dans la spiritualité. Et oui. Le sentier aussi, il se perd.
Alors, c'est très intéressant comme...
Je suis le chemin, la vérité, la vie.
Alors, ça me fait... Oui, peut-être, on répond d'abord. Tu vas là-bas, merci.
Sur le plan, donc, on voit les quartiers à droite, ils sont très droits. Les rues se coupent à angle droit et puis c'est très parallèle. Tandis que l'autre côté, donc, c'est beaucoup plus onctueux. Côté gauche, c'est plutôt onctueux, plutôt en courbe.
Alors, juste pour compléter cela, ça, c'est une rose. Je l'ai créée en pensant au film Le nom de la rose, avec Sean Connery. Peut-être vous l'avez vu. Et en fait, c'est le Moyen-Âge, en fait. C'est l'église du Moyen-Âge, où finalement tout tournait autour de l'église, hein, qui est la cathédrale. Et ces chemins qui tournent autour, voilà les chemins, dont je reviens à ce que tu disais, ces chemins que l'église a promu en fait pour tourner autour de la spiritualité en fait. Et qu'est-ce que c'est ces chemins? On pourrait dire c'est tout l'armada ou le contexte culturel pour amener les gens dans l'église. C'est en fait le pouvoir central au Moyen-Âge, c'était l'église, hein. Le pape qui intronisait par exemple les rois. Le roi de France était intronisé par le pape. Il jouait un immense rôle. C'était le centre du pouvoir ici de ce quartier. Et les gens qui allaient, par exemple, la rue du pèlerinage, les gens qui allaient en pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, qui faisaient 2000 kilomètres, on revient à l'histoire du chemin, c'est un chemin spirituel qui a été développé. Et aujourd'hui encore, il y a un certain nombre d'évangéliques qui suivent ce chemin. Je prends Frédéric de Coninck, par exemple, qui a écrit un bouquin, un sociologue mennonite, qui est connu de certains. Il a fait le chemin de Compostelle, il a écrit un bouquin là-dessus, évangélique, aujourd'hui. Donc, ce chemin, il passait par des langues différentes, français, espagnol, portugais, et puis, ou lorsque les gens venaient d'Allemagne, ou ils avaient encore une autre langue, ils traversaient des cultures, et puis... Ils restaient toujours dans le cadre de l'Église. Ils étaient toujours dans ce circuit-là, même s'ils passaient plus loin. Et ça, c'est important à comprendre. Et au fond, les chemins dont tu parlais pour arriver au Christ, c'est des chemins qui sont aussi culturels. Et alors, ça me permet peut-être de définir ce que c'est la culture. Dieu nous a créés avec des outils pour capter la spiritualité. La prière, par exemple, on la retrouve dans d'autres religions. Le rêve, on la retrouve dans d'autres religions. Même la glossolalie, qui est le parler en langue, est pratiquée par certaines tribus indiennes non chrétiennes. Et ça, j'appelle... Alors, quand on entend ça, on dit, moi, c'est pas possible. Il n'y a que le Saint-Esprit qui... Non, c'est des outils. Alors, ça dépend, ces outils... ce qu'ils vont saisir. Et au bout de ces outils, il y a aussi le diable qui va infiltrer ces outils pour se les approprier. Et en fait, entre Dieu, notre Dieu à nous, revenons au christianisme, il y a toujours un élément culturel. Il n'y a jamais une interface directe. Si je lis la Bible, il faut que je sache lire. Dieu ne peut pas peux pas me mettre devant un texte, là, la Bible est là, et puis je regarde, je ne sais pas lire, mais ça me vient quand même. Donc, l'écrit, c'est un outil qui va me connecter à Dieu. Et Dieu, il entre dans ces outils, il les utilise, il travaille avec. Et souvent, nous, nous confondons l'outil culturel avec la spiritualité. Aujourd'hui, être chrétien, il faut lire la Bible. Mais posez-vous la question, est-ce qu'on peut être chrétien sans savoir lire ? Est-ce qu'on peut être chrétien, avoir une relation avec Dieu, sans savoir lire ? Sacré problème ! Alors Dieu peut... Comment va-t-il parler ? Et alors, c'est très important dans notre communauté, dans nos communautés, de comprendre cet élément, je le répète, qui a toujours entre Dieu, entre l'action du Saint-Esprit et nous, et la communauté, il y a des outils culturels. Alors la musique, c'est un outil culturel. Au même titre que moi, maintenant, je suis en train de prêcher, je fais du stand-up, comme on dit, avec les humoristes actuels. C'est de la culture, au même titre que j'ai un micro pour vous parler. Et alors peut-être, si j'avais encore 30 centimètres de plus, un bide un petit peu moins gros, vous serez peut-être subjugué par ma personnalité et vous serez... et regardez les prédicateurs actuellement. C'est souvent des gens, des beaux bonhommes. Et puis, il y a des gens qui flippent pour ces gens-là. Moi, j'ai travaillé sous la responsabilité de Maurice Ray. Et Philippe de Corvey, qui était son adjoint, disait, Maurice Ray, au fond, c'est un comédien. Il aurait pu faire Jean Gabin. Ah, ça, c'est un homme rempli du Saint-Esprit. Non, c'est un type qui savait bien utiliser sa personnalité, son discours. Alors bien sûr, c'est un homme spirituel qui se greffait dessus. Mais souvent, on se fait piéger par ce genre de choses. Et on croit que c'est spirituel parce qu'on... Regardez voir le nombre de fois où on parle lorsqu'on nous dit « Ah, il y avait l'onction ce matin. » L'onction. Alors je dis aux gens « Ah oui, bon, l'onction, c'est quoi l'onction ?» Et quand on creuse, en fait, on peut ajouter un autre mot qui c'est « ambiance ». Il y avait une superbe ambiance. Comme ce matin, vous avez bu le café, c'était sympa. Et puis quelqu'un peut dire, oh, ce matin, il y a l'onction du Saint-Esprit qui est là. Non, non, non. Oui, oui, bien sûr. Là où deux ou trois sont rassemblés, je suis au milieu d'eux. Même lorsqu'ils boivent du café. Alors, vous voyez le... cause problème. Alors, d'autres questions. Alors, continue. Oui.
Micro, ça, c'est l'interface.
On voit que des monastères, il n'y a qu'une seule église.
Pardon ?
On ne voit que des monastères.
Oui.
Il n'y a qu'une église.
Alors ça, c'est le type de colonisation, entre guillemets, de l'espace culturel. Ici, on a surtout colonisé l'espace géographique avec des monastères. La France et l'Europe ont été colonisées par des moines irlandais qui sont venus, se sont plantés dans une forêt. Voilà, ils ont commencé à défricher, ils ont monté leur monastère, ils ont commencé à faire du commerce et ainsi de suite. Et c'est comme ça que la première évangélisation s'est faite en Europe. Donc, c'est un système et... Repassons ici avec ce quartier-là qui nous est... Ça, c'est le quartier... On ne va pas trop passer ici sur ce quartier, mais allez, sur ce quartier-là. Ce quartier-là, c'est plutôt ce qui est le nôtre. Et ce quartier-là, culturellement parlant, a été colonisé par les écoles. Lorsque les catholiques font de la mission et qu'ils partent sur l'étranger, ils installent une église en premier. Lorsque les protestants vont en mission... Ils installent quoi en premier ? Une école. Hein ? Voilà, l'Église vient par la suite. Ça, c'est très important à savoir. Et ce passage-là, c'est pour ça que le haut du quartier, c'est les rues qui commencent. À la fin du Moyen-Âge, au fond, il y a quelque chose de nouveau qui s'est déclaré avec le mouvement des humanistes. Je ne rentre pas dans les détails, on n'a pas le temps, mais un levier technologique a tout bouleversé. Et ce levier technologique, c'est l'imprimerie. Considérez-le comme un levier technologique, une industrialisation de la diffusion. Une industrialisation. Quand on peut imprimer un catéchisme comme l'a fait Luther pour tous les protestants et que Luther demande d'apprendre par cœur le catéchisme, c'est à cause du levier technologique. Et au fond, ça a créé un autre type de culture. Et nous, nous sommes des fils de cette Église. Et en fait, le pouvoir de l'Église, qui était le pouvoir central, a passé sur l'école et l'université. C'était Calvin, quand il a créé, il s'est lancé, il a créé l'université en face de Bastion, du jardin des Bastions, et le collège Calvin, pour former les pasteurs français. Donc, c'est devenu le pouvoir central. Et aujourd'hui, un pasteur, on lui demande d'avoir un diplôme. Et aujourd'hui, on crée encore actuellement une haute école de théologie parce qu'on estime qu'il faut pousser encore plus la formation. Et voilà, on est tout à fait tributaire de ça. Et au 19e siècle, il y a un certain nombre de frères, et notre Église est issue de ces frères, qui se sont lancés et qui se sont détachés de cet esprit espace universitaire. Et ils ont créé un réseau d'églises. Le réseau d'églises des assemblées évangéliques de Suisse romande, à l'époque, donc maintenant ça s'appelle la FRI, c'était au fond souvent des églises qui ont été construites ou mises en route par des paysans. Et Michel Cretenny, c'est chez toi, non, le lieu de culte était dans une ferme. Et il y a plusieurs églises de notre fédération ont commencé dans des fermes. Alors par la suite, il y a eu des gens qui ont été injectés, qui ont fait des études. Jacques Bandonnier, Armand à Heiniger, il a fait des cours à la faculté. Mais aujourd'hui, au fond, on a maximisé ça. C'est-à-dire que tout passe par la question de la culture. Alors, je vais aller assez vite pour montrer qu'en fait, il y a un autre levier technologique qui s'est installé ici. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a une idée? Quel est l'autre levier technologique qui a tout bouleversé? Oui? Pardon? L'économie, oui. Non. Pardon? Non, oui, oui, bien sûr. Mais tout simple, l'électricité. L'invention de l'électricité a permis le développement de l'économie, a permis le développement de tas de choses, entre autres la radio, la télévision, Internet. Il n'y avait pas eu l'électricité. Tout cela n'aurait pas pu se passer. Donc, en fait, il y a une rupture ici, et je voudrais vous montrer ça avec l'aide d'un tableau du peintre François. Ah, viens voir. Je vais peut-être juste vous montrer le tableau pour que vous le voyez de près. Il y a deux éléments. Il y a la scie, donc de côté, et de l'autre côté, du papier qui est au fond bouffé, on peut le dire comme ça, par la scie. Et au fond, chaque culture, avec son levier technologique, va développer à partir de son propre axe. Et toute culture est toujours une culture dominatrice qui va tuer la culture précédente ou la marginaliser.
après ça.
Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou qu'on le veuille, ou qu'on le veuille pas, cette culture est en train de se faire phagocyter par la culture montante. Ici, c'est la culture du livre. Ici, c'est la culture des mass médias électroniques, télévision, radio, internet, mobile. Et de plus en plus, on va vers ce que j'appelle une oralité électronique. C'est-à-dire que on n'a plus besoin de lire. Vous pouvez piloter votre téléphone par la voix. Et de plus en plus, la vidéo prend de l'ampleur et le livre est marginalisé. Et alors, on est là entre nous parce que nous, on vient de cette culture-là. Et on sent ces froissements, on sent cette machine qui est en train de tourner sur son propre axe, sur sa propre réalité et qui est en train de disséquer la culture du livre. Alors, ça crée des tensions. Alors, je voudrais demander à Tony ou Katie de venir ici et de nous expliquer, lui qui est venu d'une culture ou de plusieurs cultures africaines, qu'est-ce qui l'a choqué en venant, tu peux monter ici. Qu'est-ce qui l'a choqué en étant en contact de la culture européenne? Et il va nous expliquer ça à l'aide d'un exemple très simple. Je vais te donner le micro. Et vous comprendrez que chaque culture qui entre en contact avec l'autre, avec une autre culture, crée des difficultés, crée des « ça marche, ça tourne pas rond ».
Bonjour à tous. Bonjour à tous. Voilà. Nous sommes arrivés en Suisse et je vais vous raconter ce qui m'a frappé. C'est l'attitude, les comportements que vous, ici en Suisse, vous avez quand quelqu'un tombe en deuil, quand quelqu'un meurt en famille. Et ça, ça m'a choqué. Pourquoi est-ce que ça m'a choqué? D'abord, parce que chez nous, on n'agit pas de cette façon en Afrique. D'abord, les concernés. Qu'est-ce qui m'a frappé chez les concernés? J'avais un ami qui a perdu son beau-père que je connaissais, qui avait visité l'Afrique, et je l'ai connu en Afrique. Voilà, la personne meurt, et voilà, j'ai reçu un mail pour me dire, voilà, la famille est réservée. C'est l'isolement.
C'est-à-dire qu'elle veut faire un enterrement en intimité, c'est ça?
Exactement. C'est d'abord la fermeture. On dit la famille, on s'isole un tout petit peu, c'est l'affaire des familles. Pas n'importe quelle famille, la famille rapprochée. La famille est en train de méditer. Et souvent, vous tombez sur les répondeurs. Personne ne prend votre appel. Quelquefois, au besoin, vous envoyez un message SMS. Mais moi, je viens d'une culture où, quand il y a deuil, c'est plutôt l'ouverture. On a besoin de support. Et là, on n'a pas besoin que quelqu'un vous dise, voilà, passez. Je n'ai vraiment pas besoin qu'on me dise, on passe. Je viens spontanément. Je ne demande pas si la personne est là. Et c'est vraiment une large ouverture. Et j'ai besoin d'être supporté. Plus vous avez des gens, plus vous êtes aimé. Et vous êtes encouragé. Et bref, même aujourd'hui, dans le temps d'ailleurs, quand il n'y avait pas de téléphone, dès que quelqu'un meurt, c'est les tambours qu'on tape. On transmet les messages par les tambours. Et ça part pour annoncer au plus du monde possible. En fait, avec les tambours, on pouvait même transmettre le message du deuil à quelqu'un qui s'est trouvé en Allemagne.
Et même à minuit, tu me disais.
Et à minuit, d'ailleurs, ici, quand il y a quelqu'un qui est décédé dans notre famille, c'est à minuit qu'on a reçu le téléphone. Donc voilà un peu cette différence. Et pour moi, quand on me dit, voilà, attendez que le message, vous allez le recevoir par la tribune de Genève, c'était très dur. Franchement, ça m'a froissé. Et voilà. Maintenant, pour les membres, les amis, les autres, d'autres membres des familles rapprochées, comme je l'ai dit, c'est vraiment chez vous ici, soit on envoie les cartes, on prépare peut-être des fleurs. Et quelquefois, pour nous, c'était vraiment, c'est la présence physique qui compte. Et vous devez être là. D'ailleurs, si vous ne venez pas, au risque de vous prendre pour le sorcier, celui qui a tué la personne qui est partie. Et si c'est très fort. Et donc, on doit être là. Même quelles que soient les occupations, il faut être là. Et au besoin, on est là toute la nuit. Voilà, en résumé, cette différence, ça m'a choqué. Et je crois que j'ai juste résumé ce que nous ressentons. Et franchement, c'est très, très, très difficile pour nous de pouvoir marier ça. Et vous allez comprendre, souvent, quand nous apprenons telle personne meurt dans telle ou telle famille, on se dit, bon, d'accord, on reste chez nous. Ce n'est pas le comportement normal d'un Africain. Merci.
Donc, vous voyez comment on peut très vite mettre des éléments spirituels là-dessus. Tony aurait pu dire, mais c'est des chrétiens, ça ? Mais ce n'est pas des chrétiens. Ils ne sont pas ouverts sur la communauté. Ils parlent de communauté, être ensemble dans la communauté. Mais dans la pratique, regardez ce que ça donne. Vous voyez comme très vite, sur des comportements culturels, on peut greffer des analyses spirituelles qui sont fausses. Donc, ça montre bien la question de la culture. Alors, je vais demander à Martine de venir et de nous faire un dessin que vous allez devoir reproduire et qui vous montre la difficulté de ce passage-là quand vous passez d'ici à là. Dans ce nouveau quartier, ces nouveaux quartiers qui sont développés à la suite avec le levier technologique moderne, hein, où il y a plus, c'est plus l'école qui est au centre, mais si vous regardez sur votre carte, c'est l'euro qui est au centre, ou le franc suisse, hein, le signe de l'euro, il est ici et là. Le centre de notre culture, le pouvoir de notre culture aujourd'hui, c'est l'argent, c'est l'économie. C'est les financiers, c'est ni les politiques, ni l'Église. Alors, tiens.
Alors, je vais vous faire un profil. Vous verrez, moi qui suis droitière, pour moi c'est super facile. J'ai l'habitude, ça y va. Hein.
Donc, vous refaites la même chose, vous avez des feuilles de papier blanches, là. Vous avez des stylos pour ceux qui veulent.
Alors, je commence par le front, le nez, la bouche, le menton, le cou.
Voilà, vous refaites la même chose. C'est bon ?
Le problème, c'est qu'en fait, là, j'ai dessiné un profil, mais je ne veux pas dessiner un profil, je veux dessiner un vase. Peut-être que quelques-uns connaissent déjà cette histoire. Je veux dessiner un vase, donc je mets un socle, là. Je mets le haut du vase, là, comme ça, ouais, jusqu'en haut. Et pour que mon vase soit bien, il faut que je fasse le même dessin à l'envers. Ça va peut-être vous étonner, mais moi, j'y arrive pas. Parce que je ne peux plus utiliser le même vocabulaire. Je ne peux plus dire le front, le nez, la bouche, le menton, le cou, je ne peux plus. Je suis obligée d'utiliser une autre approche. Alors, je vous dis tout de suite, je ne suis pas sûre de le réussir. Hein. Là, je vais commencer par en haut. Il y a une pente. Là, après un espèce de décroché qui fait le vide. Oui, j'y suis même pas. Je vous jure que je fais pas exprès. Hein. J'ai pas du tout l'impression de dessiner un nez. Absolument pas. C'est quelque chose d'autre. Je dois ressentir les espaces. Là, comme ça. Et puis ici, ça fait une espèce de vague. Ouais. Un trou. Là, comme ça.
Voilà.
Ouais, il est un peu bancal. Hein,
merci. Donc, vous qui avez suivi le dessin, vous avez ressenti qu'il y a un problème là. C'est assez difficile à faire. Parce que vous travaillez, comme l'a expliqué Martine, avec le ressentir. Vous allez ressentir les espaces. Et voilà la différence entre la culture du livre et la culture actuelle. Alors, dans la pratique, ça veut dire quoi? Par exemple, pour ce matin, pour le culte, pour cette formation, j'ai dans la tête un schéma que j'ai trafiqué, j'ai rien écrit. J'ai pas passé du temps à mettre par écrit mes points 1, point 2, point 3. C'est un sujet que j'ai souvent développé, donc je le maîtrise, on est bien d'accord. Mais je me suis fait un scénario dans la tête, mais je n'ai pas du tout suivi le scénario. C'est-à-dire que, en étant ici, j'ai essayé de ressentir ce que vous dites, comment vous réagissez. J'ai d'autres choses encore en vidéo au cas où pour remplir. Mais voilà, je vais pas, pour le moment, pas l'utiliser parce qu'on n'a pas le temps. Donc, je suis toujours en train de construire quelque chose en fonction de mon public. Ça veut dire quoi? Dans le culte, par exemple, c'est pas une critique que je fais, parce qu'on a le président de culte est là, il a ça. Voilà, point 1, point 2, point 3. Et il ne va pas déroger de ça. C'est bien, c'est très bien, je ne suis pas en train de faire une critique. Mais si vous allez dans des nouvelles églises, vous allez sentir que des gens qui travaillent aussi avec ça. C'est-à-dire que nous, lorsque quelqu'un d'entre nous donne une prophétie, on est là, on dit, où est-ce que je vais mettre ça? Ah ben, ça ne rentre pas là-dedans. Et on zappe. Ah, je pourrais dire, viens, on va prier maintenant pour quelqu'un. Ce n'est pas dans mon planning, mais peut-être quelqu'un a besoin qu'on prie pour lui. Alors j'arrête mon truc et je prie pour lui. Et c'est ça, par exemple, aussi dans les familles. Les familles, souvent, de par notre formation, on est de cette culture-là. Et en fait, on a de la peine avec nos adolescents qui sont de cette culture-là. Et on se comprend plus. Parce que, par exemple, dans le journal Cosette, qui est un journal féministe, que je lis de temps en temps parce que ma femme le lit, il y a un article, ce mois-ci, où c'est une fille qui suit un cours au lycée, en France, et elle passe son temps à dessiner son prof de maths en cochon. Elle fait des dessins. Et le prof de maths comprend qu'il s'agit de lui. Il a fait convoquer les parents et il a dit aux parents, votre fille est nulle en maths. Sortez-la de cette école, mettez-la dans une école d'art. Et c'est ce que les parents ont fait. Elle est devenue une des grandes dessinatrices de bandes dessinées en France. Ça, c'est un type intelligent. Qui n'a pas dit, ah non, non, il faut que tu maîtrises les maths, c'est important, il faut que tu fasses ton bac, il faut que tu fasses ton machin. Et combien de fois on pousse les gens, les adolescents, dans des métiers ou dans des formations. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut laisser tomber l'école et l'université, non. Pour envoyer un robot sur la Lune, ben, il faut encore des ingénieurs qui sont d'une manière très analytique et ainsi de suite. Mais les théologiens, en tout cas, certains théologiens, pas tous, mais certains théologiens, il faudra les sortir de l'université des sciences exactes pour les mettre dans d'autres modes de formation. Et ces formations, ils ne sont pas encore là, pour ces gens-là. Et donc, vous voyez déjà, dans le couple aussi, dans le couple, ces différences apparaissent. Un mari ou une femme très analytique, toutes les choses doivent être bien rangées, on fait les choses les unes après les autres, on ne les mélange pas. mon fils François, il assistait à une réunion à Mont-sur-Lausanne entre des gens entre 20 et 32 ans. Il commence à manger et puis après, ils arrêtent le repas et après, ils se mettent en cercle et commencent des groupes de discussion. Mon fils, il dit, mais pourquoi il continue pas à discuter, on a discuté bien à table. Pourquoi on ne peut pas continuer à rester à table? Pourquoi faut-il se mettre à part, laisser le côté? Alors que dans la Bible, il y a des grandes questions théologiques qui ont été émises dans le cadre d'un repas. Le repas, la Sainte-Cène, par exemple. Donc, on est dans l'analytique. On juxtapose, on mange, on ne fait pas deux choses en même temps. Dans cette culture, oui. Vos adolescents qui font leur devoir en écoute de la musique, vous dites, c'est pas possible, arrête ta musique et concentre-toi sur ton texte. Voilà les conflits culturels qui se développent parce que simplement vous ne comprenez pas la culture. Aussi dans l'église aussi, vous avez des gens qui font de la musique, qui sont plus émotionnels, c'est plus nappé, on met une ambiance dedans et vous êtes là, je ne me sens pas bien, ce n'est pas très inspiré par le Saint-Esprit. Non, ce n'est pas vrai. C'est tout aussi inspiré, mais c'est vous qui culturellement ne... Alors, ce n'est pas grave si vous êtes là. Si vous êtes là, vous coincez. Moi, j'ai assisté, par exemple, à Lyon, à une réunion de prière chez des pentecôtistes. À côté de moi, il y a une personne qui prédit « Seigneur, qu'est-ce que tu as ?» Moi, je ne pouvais pas me concentrer. Mais je n'ai pas dit ce gars, il n'est pas très spirituel. Il ferait mieux de se taire. Non, c'est sa culture. C'est sa manière de s'exprimer. Et nous, on était ces jours, il y a de nouveau une grande rencontre à Paris avec Payan et Paris, tout est possible. C'est des gens qui rassemblent 500, 600 000 personnes. Et puis c'est la bouillie, c'est ils dansent et ainsi de suite. Quand nous, on y était, on était froids comme des glaçons. On était là. Mais je pouvais me réjouir de ce que des gens dansent, ont du plaisir. Parce que je pouvais me dire, ce n'est pas ma culture, ce n'est pas grave. Et je répète ce que j'ai dit dans le culte par enfant, la spiritualité ne mesure pas le dimanche matin. Oubliez. Elle se mesure pendant la semaine, la manière dont vous pratiquez votre foi. C'est là que vous pouvez dire, est-ce que je suis spirituel ou pas spirituel? C'est là que vous pouvez mesurer, pas le dimanche matin. Pas le dimanche matin lorsque vous êtes coincé. Alors c'est vrai que vous pouvez avoir des prédicateurs qui disent n'importe quoi, et vous pouvez dire, mais ça c'est pas très biblique. C'est vrai, c'est vrai. Et que ça arrive, mais en général... Et alors, il y a des gens qui disent, de temps en temps, j'aimerais aller à la rue du Jura, par exemple. Mais allez-y, c'est votre culture. Vous êtes peut-être plus proche de ça. Et Dieu ne vous en voudra pas. Et puis, vous pouvez revenir ici et dire, de temps en temps, j'ai mes copains ici, je vais revenir ici. On n'est plus dans un cloisonnement. L'important pour vous, c'est de croître spirituellement. Que ce soit avec des ambiances, avec des endroits où il y a l'onction, et des endroits où c'est plus réformé, plus froid, c'est égal, pourvu que vous croissiez. Et c'est peut-être par là que je terminerai, parce qu'on pourrait encore discuter longtemps, et on va prendre 10 minutes de break, vous reprenez un café, un croissant, on va mettre la Sainte-Cène au milieu, et la deuxième partie, ça va être un culte plutôt de ce type-là, hein, un moment cultuel. Alors, si ça vous gêne, vous avez l'autorisation de rentrer chez vous. Le Seigneur ne vous en voudra pas. Il comprendra mieux que nous ou que vous. Donc, on va mettre la Sainte-Cène au milieu, la table, ici. On va avoir un moment de louange. Donc, Xavier, Prisca et Johan vont nous conduire dans la louange. Et puis après, on va prendre la scène. Je vais juste faire une prière. Je ne vais pas faire le rituel de consécration, on le connaît, on l'a ça tous les dimanches. Mais alors on va simplement nous réunir autour de la scène, c'est-à-dire que vous pouvez prendre la scène ou pas prendre la scène. Donc vous êtes libre. Nous sommes devant Dieu libres. Et ce n'est pas parce que vous n'allez pas prendre la scène que finalement les gens vont autour et se dire « Ah oui, il a un problème à régler, elle. » Non. Liberté. Donc, et en plus, on ne va pas faire circuler le pain et le vin. Ah, il y a une nouveauté. Il ne faut pas que j'oublie. C'est Hans, notre sacristain, qui m'a dit « Au milieu, maintenant, pour le jus de raisin, il y a des gobelets en couleur. » Ah, il y a une sacrée évolution dans notre église, hein. Donc, on va mettre au milieu la Sainte Cène au milieu. On va un petit peu nous écarter. Et pendant le Xavier va faire la musique pendant ce temps de Sainte Cène, vous vous levez pour prendre vous-même votre Sainte Cène. Mais ce serait encore mieux que vous alliez avec quelqu'un d'autre, avec votre épouse, avec une connaissance, que vous prenez avec lui, mettez la main autour de son épaule et vous vous donnez mutuellement la Sainte Cène. Peut-être c'est aussi le moment où vous allez, c'est parce que c'est l'endroit, la Sainte Cène, vous allez peut-être régler des conflits. Ce matin, votre épouse vous a fait des remarques, pas ce matin, donc c'est pas ce matin, mais les autres jours où ma femme me fait des remarques sur ma conduite de voiture. Peut-être il y a un petit accrochage ce matin et que vous avez besoin de demander pardon. Ben, vous le faites autour de la table de Sainte-Cène, ou peut-être entre générations, ou bien vous dites « pardonne-moi » et vous prenez la Sainte-Cène. Pas plus, pas besoin. Mais je resterai aussi auprès de la table pour des gens qui ont besoin qu'on prie pour eux. Simplement pour une guérison. Il y a aussi les anciens qui peuvent se joindre à nous, ou bien Paul Robert ou d'autres, ou Michel, ou des plus jeunes parmi vous. Bernard, non, ce n'est pas le plus jeune. Vous pouvez demander à quelqu'un de prier pour vous parce que vous ne vous sentez pas bien. Et ça, on va le faire autour de la Sainte Cène. Alors, c'est simplement un exemple. Il ne faut pas dire maintenant c'est le type de Sainte Cène qui est le meilleur pour notre Église dans les prochains dimanches. Non, non. Et simplement, j'espère, je souhaite que vous puissiez saisir que lorsque vous n'êtes pas bien, que vous puissiez dire « Ah, d'abord, je vais prendre ma clé culturelle. Est-ce que c'est un problème culturel ou réellement un problème spirituel ?» Voilà. On arrête ici. Merci. Et puis, vous pouvez vous lever donc, prendre un café.
qu'elle mette le chant.
Manon, tu peux déjà brancher, s'il te plaît.
Voilà. Voilà, venez. Venez vous asseoir. Venez vous asseoir. Je vous rappelle, le moment de Sainte-Cène, ce n'est pas maintenant. D'abord, il y a un moment de louange. Voilà, prenez place. Quelqu'un avait posé la question de l'émotion, juste pour vous rappeler que le travail qu'a fait Martine sur les profils, c'est au fond un travail de l'émotion. On a travaillé avec notre émotion en essayant de faire comme sur l'autre côté, le côté droit. Donc l'émotion, ce n'est pas simplement avoir quelque chose dans les tripes, comme ça, une sensation, mais c'est une manière de penser. Et la Sainte-Cène, je vous rappelle, la Sainte-Cène, ce n'est pas maintenant. Voilà, exactement. Non, mais c'est bon. Oui, exactement. Exactement. C'est simplement pour dire que le moment de Sainte-Cène, c'est un moment émotionnel, ou de l'émotion, on va aussi réfléchir à ça. La Sainte-Cène, on va la prendre après la louange. C'est un temps défini. On va essayer d'entrer dans une émotion spirituelle, voilà. On va se concentrer quand même sur ce qu'on va faire, c'est pas la bastringue. Mais c'est excellent cette histoire qui s'est passée maintenant. Ça montre à quel point on a de la difficulté d'entrer à la fois dans une spiritualité rituelle, parce que dès qu'un groupe se rassemble, il faut un certain rituel, et le fait d'être plus relax, d'être détendu, n'être pas coincé par le rituel. On n'arrive pas très bien à gérer. Et ça montre que c'est tout un apprentissage à faire. Ça ne vient pas comme ça. Et voilà. Alors, c'est une partie d'apprentissage qu'on fait aujourd'hui. Et on va donc avoir un moment de louange avec nos trois amis. Et puis, je vous dirai, je prierai pour la Sainte-Cène. Et alors là, on va se lever. Après, il y aura un chant encore pour l'offrande. C'est très spirituel, ça, je vous rappelle. Et puis, il y aura les annonces. Et Tony qui va nous faire la bénédiction finale. Tony ne voulait pas faire la bénédiction, mais je lui ai dit, mais ça rentre dans notre culture. On est dans un mélange culturel aujourd'hui, et c'est important qu'aussi dans les cultes, on retrouve ces mélanges culturels. Sylvain Dupertuis a écrit un article dans l'Électron où il explique qu'il y a plus de 100 communautés évangéliques à Genève. Intéressant. Voilà, on part pour la louange.
J'aimerais vous inviter à prier. Seigneur Jésus, tu es grand. Seigneur Jésus, tu habites dans nos cœurs. Tu habites dans nos vies. Et puis qu'on soit rouge, jaune, noir, blanc, qu'on soit jeune, vieux, qu'on soit littéraire, intellectuel ou émotionnel ou quoi que ce soit. C'est toi notre point commun. C'est toi qui remplis nos cœurs, c'est toi qui remplis nos vies, c'est toi qui nous habites tel que nous sommes. Et je veux te dire merci de tout mon cœur parce que, oui, au-delà de toutes ces différences qui existent, mais au-delà de tout ce qui pourrait au prime abord nous séparer, ben, ton amour est là. Et puis ça fait que c'est encore plus fantastique d'être ensemble parce qu'on est tous différents et puis on est tous en toi. Et puis on est ta famille de toutes les couleurs, toutes les formes et toutes les personnalités possibles. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus, parce que avec toi, on n'a pas besoin de se poser de questions, de faire d'analyse. C'est ton amour qui habite nos cœurs. Béni soit ton nom.
De nos montagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer. Chantons sa victoire et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Le roi rassemble son armée, l'ennemi tremble sous ses pieds. La victoire est assurée si nous marchons unis à ses côtés. Oh, la foi est notre bouclier et sa parole est notre épée. Ses armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous chantons sa victoire et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ.
Moi, j'aimerais partager avec vous un sujet de reconnaissance. J'ai vu Séverine qui s'est pointée avec un petit trésor dans ses bras. Est-ce qu'elle a filé ou bien elle est encore là? Elle est. Séverine, avec sa petite fille qui s'appelle Zélie. Seigneur Jésus, on aimerait accueillir Zélie. On aimerait te dire merci parce que c'est toi qui donnes la vie. On aimerait te dire merci parce qu'on peut partager la joie de Séverine et de sa famille. Seigneur Jésus, que tu puisses bénir cet enfant, que tu puisses poser ta main sur elle, que tu puisses la remplir de ton esprit déjà, toute petite, que tu puisses la garder pendant toute sa vie. Seigneur Jésus, merci, tu es merveilleux. Amen. Tu peux nous le mettre maintenant, s'il te plaît.
Alléluia, 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 le Seigneur est.
Henri, c'est le moment qu'on a choisi voilà. pour partager la
Vous pouvez vous asseoir. Donc, je vous réexplique. Vous vous levez simplement de votre chaise. Si vous avez envie de prendre, le besoin de prendre la Sainte Seine, vous vous approchez et vous prenez. Ce serait encore mieux que vous allez avec votre conjoint ou avec quelqu'un. Vous prenez l'occasion de prier pour lui, mettez la main autour de son épaule et vous prenez ensemble la Seine. C'est aussi un espace de réconciliation, un espace de prière aussi, les uns pour les autres. Si vous voulez qu'on vous prie, qu'on prie très spécialement pour vous, pour une guérison, pour un problème, vous adressez à moi et je vais vous diriger vers un frère qui priera pour vous, par exemple, ou moi je prierai pour vous. Voilà, vous avez compris ? Voilà. Alors, on va faire un moment de silence. Je vais encore une fois prier en relation avec la Seine. Merci Seigneur parce que tu es mort sur la croix. Tu crées ce climat qui est propice pour que nous puissions nous développer. Merci pour tout ce qui s'est créé en Occident, en Europe et dans d'autres pays grâce à ta mort. Et nous te remercions de ce que tu as accepté de souffrir. Merci pour ce pain et ce vin qui symbolisent tout ce que tu as fait pour nous. Un immense merci. Et accompagne-nous maintenant dans ce moment de scène. Amen. Voilà. Pouvez-vous lever. Voilà, je termine encore ce moment par la prière. Nous prions. Merci Seigneur parce que tu as entendu nos prières, nos soupirs, nos larmes, nos difficultés. Et merci parce que la table, la scène, c'est aussi la table de la guérison, la résolution des problèmes. Et je te prie que ça continue aujourd'hui et que vraiment tu nous fasses grâce. Merci Seigneur. Amen. Voilà. Nous passons à l'offrande.
S'il te plaît.
Je chanterai louange à son nom.
je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom.
Nous prions. Merci Seigneur parce que nous pouvons partager nos biens. Et nous te prions pour cet argent, pour qu'il soit bien utilisé. Nous te prions aussi pour quelques personnes que nous soutenons. Je pense la fille, je ne me rappelle plus de son nom, la laborantine au Népal, Marianne Procville, voilà. Je te prie que tu l'encourages aujourd'hui dans ses difficultés. Je te prie aussi pour quelqu'un de plus près que nous soutenons aussi, qui est Jean-Marc Pillot et sa famille à Grenoble, dans ce nouvel espace de travail. Je te prie que vraiment nous puissions continuer à faire du bien aux autres avec notre argent. Amen. Et nous passons aux annonces, et après, il y aura Tony qui va nous bénir. Une bénédiction africaine. C'est des gens qui ont l'onction.
Voilà les annonces d'aujourd'hui. À la sortie, il y a les enveloppes, et dans ces enveloppes, la convocation pour le colloque et le PV du colloque précédent. À la sortie, les enveloppes, n'oubliez pas de les prendre. Et dimanche 7 juin, 8h30, le groupe de jeunes organise le délicieux petit déjeuner tresse. Voilà, mais il faut vous inscrire. Alors, il y a une feuille d'inscription, la voilà. Je la mettrai sur le stander là, qui est à la sortie à gauche. Avec un, vous pouvez soit vous inscrire pour le petit déjeuner, soit vous inscrire pour réserver des tresses. Voilà, mardi 16 juin, sortie annuelle du fil d'argent, programme à venir, erreur. Le programme existe, mais je ne le savais pas. Même ce matin, je ne le savais pas. Si ce n'est qu'en arrivant, j'ai découvert que le programme du fil d'argent, c'est une vie de château. Pas mal, hein ? Ah, il se refuse rien. Et la date, c'est le 16 juin, dès 10h30 sur le parking de l'EM pour le départ. Samedi 26 septembre, c'est un peu plus loin, le Forum de Mérin fête ses 20 ans. Il y a une chorale de l'église qui est en formation. Ça a l'air d'être loin le 26 septembre, mais pour que la chorale soit performante, il y a évidemment des répétitions. Si vous aimez chanter, vous pouvez rejoindre cette chorale. Les contacts sont David et Catherine. Et à la fin du culte également, rendez-vous avec les objets trouvés qui se trouvent là-bas. C'est-à-dire vers la dernière fenêtre dans un coffre. Voilà, merci.
Voilà, Tony.
Merci. Je vais vous demander de vous mettre debout, s'il vous plaît. Et peut-être ce serait vraiment agréable de pouvoir nous tenir les mains juste avant de clôturer ces cultes. Nous avons eu à expérimenter le classique et ce qui est devant nous. Donc, je vais utiliser les iPhones pour pouvoir clôturer ces cultes en me référant dans le livre de l'Épître de Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 13, au verset 13, qui dit ceci. Oh, voilà, c'est la technologie. On a des problèmes avec. Voilà, c'est difficile, mais c'est facile aussi. Voilà, je l'ai retrouvé facilement. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Allons dans la paix du Seigneur. Amen.